Eh bien, d'abord, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous et bienvenue pour ce cours que j'ai intitulé « La philosophie politique devant les paradoxes de la modernité ». Je vais m'expliquer dans l'introduction sur ce titre. Vous trouvez d'ailleurs au fond de la salle le plan que je propose pour ces cours, au moins une partie du plan. Et puis, je donnerai tout à l'heure une petite bibliographie. Alors, nous sommes ensemble pendant, je crois, 20 heures, c'est-à-dire jusqu'au 11 avril, avec des interruptions de vacances ou de choses de ce genre. Enfin, vous avez les dates sur les programmes. Alors, je voudrais d'abord, comme introduction, si je puis dire, m'arrêter sur une question qu'on peut en effet poser. En quoi la philosophie a-t-elle à voir avec le politique ou la politique? Car notre parcours va se situer sur le terrain essentiellement de la philosophie, non pas de la théologie, bien que nous la croiserons sans doute à plusieurs reprises. Mais on peut évidemment d'entrée de jeu se poser la question de savoir pourquoi la philosophie s'intéresse aux politiques ou à la politique. Est-ce que sa vocation première ne serait pas de s'intéresser à l'être, avec un E majuscule, à ce qui est en tant que c'est, donc à la philosophie première ou à la métaphysique? Est-ce que sa finalité ne serait pas de parler de la vérité, de rechercher à quelles conditions on peut l'atteindre et quelle est la nature de la vérité? Donc s'interroger sur l'aptitude qu'ont les hommes à connaître, dans les divers champs de leur connaissance, plutôt que de s'intéresser aux politiques. Et en effet, on connaît qu'un certain nombre de philosophes récents, je pense en particulier à Heidegger, mais on pourrait en citer bien d'autres, estiment qu'au fond, lorsque la philosophie abandonne plus ou moins la méditation sur l'être, la réflexion sur l'être, donc à partir du moment où elle renonce à la métaphysique, elle ne peut que s'enfoncer dans l'étang, ce qu'il appelle l'étang ETANT, dans ce das Seiende, dans ce qui est, et se laisser engloutir en quelque sorte par ce qui est, en oubliant finalement l'essentiel, qu'est-ce que l'être, à quoi sommes-nous appelés, etc. Et donc, on risque, en oubliant la métaphysique, de ne pas être à même de prendre la mesure de ce qu'il en est dans les temps. Alors, c'est assez vrai que on pourrait trouver là une ligne de crête dans la philosophie, que les auteurs qui se sont intéressés en particulier à l'être ou à la métaphysique n'ont pas eu beaucoup de considération pour la réflexion politique, que la politique leur a paru comme un domaine adjacent, inessentiel, qui ne méritait pas l'approche philosophique. Et on pourrait d'ailleurs dire que c'est précisément le cas de Heidegger, qui n'a pas consacré beaucoup de réflexion à la métaphysique ni non plus à la morale, mais si lui-même a reproché à la philosophie politique de s'oublier dans les temps, c'était dans les temps dans sa totalité, d'oublier la métaphysique, on pourrait lui reprocher en retour d'avoir oublié la politique qui, elle, ne s'est pas oubliée de lui. Et comme vous le savez, Heidegger a eu quelques petits engagements politiques dans les années 33 en Allemagne qui ont taché, sans doute un peu à tort, la réputation de cet immense métaphysicien. Donc on pourrait lui dire, il était très bien de vous occuper de métaphysique, mais vous auriez pu tout de même regarder aussi un peu où vous mettiez les pieds, c'est-à-dire ne pas mépriser les temps lui-même et donc faire un peu de réflexion politique. Ce que je dis là est un peu méchant, mais enfin on voit bien la ligne de crête dans une certaine tradition philosophique. Alors, n'en reste pas moins qu'on peut s'interroger pourquoi finalement la politique s'intéresse-t-elle à la politique. Alors, je rappelle une chose que vous connaissez bien, que vous avez déjà rencontrée, c'est que la démarche de philosophie commence à partir du moment où l'on s'étonne devant ce qui est. Il n'y a pas de philosophie, mais pas de connaissance d'ailleurs en général, sans qu'on s'interroge sur ce qu'on découvre et qu'on se demande pourquoi ce qui est là est-il là. pourquoi les choses sont-elles ainsi et pas autrement. C'est le point de départ aussi de la connaissance scientifique. Pourquoi cette pomme tombe-t-elle plutôt que de rester où elle est? Après tout, comment se fait-il qu'il en soit ainsi? Bon, mais c'est le fait aussi de la réflexion philosophique. La réflexion philosophique ne s'intéressant pas seulement à tel aspect des choses, mais essayant de considérer la totalité de ce qui est. Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, selon la célèbre formule toujours rappelée? Étonnement parce que, en général, les choses ne donnent pas leur sens immédiatement. On est devant l'opacité de ce qui est, devant la complexité de ce qui est, devant les contradictions de ce qui est, et l'on se demande pourquoi les choses sont effectivement ainsi. C'est-à-dire que l'étonnement n'est pas un étonnement béat qui se suffit à lui-même, l'étonnement ouvre à une démarche de réflexion, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est ainsi, et donc à une démarche qui consiste à s'interroger sur les raisons pour lesquelles ce qui est tel qu'il est. Autrement dit, on ne se contente pas d'admirer les choses ou de s'en tenir à une considération empirique, mais la philosophie essaie de s'interroger sur le sens des choses, sur leur raison d'être. Et donc cela, l'étonnement ouvre à une réflexion, une méditation, une pensée, à moins évidemment qu'on renonce à chercher le sens. Après tout, on peut renoncer à chercher le sens de ce qui est et se contenter de vivre. Enfin, si on fait de la philosophie, en général, on ne se contente pas de vivre, mais on s'interroge sur les raisons de vivre et sur la façon de vivre, si possible, bien à hauteur de son humanité. Donc, la réflexion, l'admiration, l'étonnement devant ce qui est, suppose une recherche de la raison d'être des choses, pour dire de manière extrêmement globale. Mais on voit tout de suite que cette réflexion ne peut pas ne pas s'interroger sur un phénomène étrange. Comment se fait-il que les hommes si différents les uns des autres puissent vivre ensemble? Voilà la question politique. Comment ne pas s'étonner de ce que les hommes si différents les uns des autres, par leur sexe, par leurs âges, par leur race, par leurs origines, par leur religion, par tout ce que vous voudrez, arrivent malgré tout, à vivre à peu près ensemble? À quelles conditions peuvent-ils le faire? Est-ce qu'il ne faut pas s'étonner? Et c'est bien le point de départ de la réflexion de philosophie politique, s'étonner de cette modalité essentielle de l'humanité, à savoir de vivre ensemble. Et il faut s'en étonner d'autant plus que ce vivre ensemble, il est à la fois la source de beaucoup d'attentes. Nous attendons du vivre ensemble, c'est-à-dire de la cité, pour parler comme les Grecs, la sécurité, la prospérité, la paix, la justice. Bref, il y a de la part des hommes des attentes considérables sur la politique ou le politique. On attend le règne de la justice, on attend la paix, etc. Donc il y a des espérances qu'on voit bien au moment des élections, des espérances fantastiques sur le politique. On investit de toute espèce d'attentes et en même temps, le politique ou la politique est le lieu d'immenses déceptions. Est le lieu de violences considérables, de guerres, d'inégalités entre les classes sociales, d'oppression des uns sur les autres, de tyrannie, donc de violences de toutes sortes. Et voilà à nouveau qui interroge le philosophe, pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Pourquoi est-ce que d'un côté on a de telles attentes sur le politique nous donnerait la prospérité, le bonheur, la paix, la liberté. Et comment se fait-il qu'en même temps, ce qu'on investit de tant d'attentes peut être le lieu de terribles violences, génocides, exploitations de toutes sortes? Alors, quel est le sens de la vie commune? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre ensemble? Comment cette vie ensemble pourrait-elle se passer de règles pour réguler cette vie commune? Mais quelles sont ces règles? Quelles sont les règles justes? Quelles sont les règles, au contraire, oppressives et tyranniques? Bref, on ne peut pas ne pas s'interroger pour chercher non seulement à quel prix les hommes peuvent vivre ensemble, si possible bien, mais aussi à travers quelles institutions ils peuvent le faire. La vie commune n'est pas celle d'un troupeau sans règles, encore un troupeau d'animaux a des règles, mais est-ce que le vivre ensemble ne présuppose pas des constitutions, un régime politique adéquat à la recherche des hommes de paix, de justice, etc. Et donc ce n'est pas très étonnant que la pensée politique la plus classique, disons celle des Grecs, se soit a priori interrogée sur les bons régimes, le bon régime politique. Quels sont ces bons régimes ou quel est le meilleur régime et quels sont les plus mauvais régimes, mais aussi comment se fait-il que les meilleurs régimes aient dégénéré en tyrannie? C'est une des grandes méditations, aussi bien de Platon que d'Aristote, parce qu'ils avaient l'exemple de la cité grecque. La plus belle démocratie peut, pour mille et une raisons, dégénérer et tomber soit dans l'anarchie, soit dans la tyrannie. Alors, je dirais que nous touchons là, si vous voulez, la raison d'être de la réflexion philosophique et ce que j'appelle le paradoxe du politique, c'est qu'il faut faire vivre ensemble des hommes très différents les uns des autres. Il faut faire face aux convulsions que suppose cette vie commune, aux fièvres qui s'emparent de la vie commune, qui est l'origine de tant de déceptions. Et donc, si la réflexion philosophique cherche la raison d'être du politique, savoir la justice, le bien commun, etc., elle ne peut pas ne pas rencontrer ce que j'appellerais son autre de la raison, qui est la violence. Et on pourrait dire que la philosophie politique, elle doit se concentrer sur les deux à la fois. Si l'on veut faire vivre des hommes bien, c'est qu'il y a des sources du mal. Si l'on veut mettre la paix entre eux, c'est qu'il y a des sources de violence. Et donc la philosophie ne peut pas simplement rêver de la cité idéale, elle doit en même temps se demander pourquoi cet idéal est méconnu. C'est-à-dire qu'elle a affaire à la fois à la violence et à la raison. Je prends ici un des thèmes du grand philosophe Erich Weil, dont je parlerai à plusieurs reprises. Donc la violence, sous ses formes les plus diverses, d'où vient-elle? À quel prix peut-on sinon l'éliminer, du moins l'écarter? Et comment se fait-il, question que j'ai posée à l'instant, que même les meilleurs régimes, apparemment les plus bien huilés, si je puis dire, arrivent un beau jour à se déglinguer et à donner les pires résultats que l'on puisse connaître? Alors, par rapport à cette grande interrogation, à ce grand paradoxe du politique, évidemment, il y a plusieurs lignes de réponse. Je voudrais en esquisser deux très rapidement, parce que le but de cette introduction, c'est plutôt un but apéritif, si je puis dire. Je dirais qu'il y a d'abord une première ligne, qui est celle des sagesses morales, par exemple la sagesse stoïcienne, la sagesse épicurienne, peut-être la sagesse bouddhiste, même sûrement la sagesse bouddhiste. Ces sagesses étant plus ou moins religieuses, mais pas nécessairement religieuses, cette ligne de sagesse tiennent l'idée ou se prononcent sur l'idée que la seule attitude raisonnable qu'adoptera l'homme avisé et donc le sage, c'est de se tenir à l'écart des remous de l'histoire. C'est de tenter de tirer son épingle du jeu, d'avoir le moins à faire possible avec les tourmentes, les troubles et les violences du monde. Donc de se retirer dans une attitude de repli et de non-participation à la violence du monde. L'idée de ces sagesses, que évidemment je réduis à leur extrême point commun, c'est qu'il faut participer le moins possible à cette vie politique tourmentée, et qu'au contraire il faut rechercher en soi-même ou du côté de la divinité l'harmonie et la paix qu'on ne peut pas trouver dans le monde. Il faut au fond se retirer du monde Et c'est ça la seule sagesse, et donc ne pas ou tremper le moins possible, ne pas tremper avec cette violence ou ne pas ou s'en retirer le plus possible. Donc on pourrait dire qu'à la limite, ces sagesses professent une non-violence absolue. Et cette non-violence absolue présupposerait qu'on se tienne évidemment à l'écart de la violence du monde, du moins qu'on y participe le moins possible. Donc en gros, c'est une ligne de sagesse, qui a des formes diverses, être vivre en ermite, se retirer dans l'intériorité, ne pas participer à la politique, et on voit très bien les diverses versions, elle est corrompue, moi je ne veux pas être corrompu, donc je ne m'intéresse pas à tout ça, je ne veux pas avoir les mains sales, etc. Donc je me retire du monde, finalement. Bon, c'est une attitude tout à fait possible et qui, bien entendu, a diverses versions possibles. Mais il y a une deuxième ligne que je ne fais qu'évoquer aussi très rapidement, qu'on peut identifier à nouveau, non sans simplification, à la ligne platonicienne, qui consiste à dire, oui, c'est un fait, nous le constatons, que l'histoire des hommes, l'histoire du vivre ensemble, est une histoire de violence. Les hommes se battent, ils s'étripent, ils se volent, ils se mentent, il y a des tyrans et des bourreaux. C'est un fait. Mais c'est un fait qui ne devrait pas être. C'est une anomalie de l'humanité. L'homme n'est pas appelé à la violence. Et donc, le rôle du philosophe, c'est de réfléchir aux chemins par lesquels l'humanité pourrait s'arracher à cette violence. Donc, l'ambition de la raison, et donc l'ambition du philosophe, c'est de chercher les moyens de triompher de cette violence. Et il revient à l'homme raisonnable d'indiquer les voies par lesquelles on pourrait aboutir à une cité heureuse. En gros, c'est le geste platonicien qu'on trouve dans la République, d'ailleurs qui n'est pas sans lien avec la thèse précédente, il faut sortir du monde empirique, n'est-ce pas, sortir de la caverne, on ne voit rien, donc il faut s'abstraire, mais il faut s'abstraire, et voilà la différence avec la position antérieure, non pas pour se retirer sur l'Aventin, mais pour trouver un idéal de société tel que, appliqué, il permettrait d'échapper à la violence. Le meilleur régime possible. Là, à nouveau, cette forme de pensée trouve des versions très très diverses, des contenus très divers. On pourrait dire qu'en gros, c'est les lignes utopistes. La première ligne que j'ai indiquée, c'est une ligne de sagesse et de retrait. La deuxième ligne, c'est une ligne utopiste. Alors, il y a d'énormes utopies, le messianisme. Par certains côtés, le marxisme a présenté une immense utopie au XIXe siècle. Mais si l'on s'en tient à Platon, il y a en effet chez Platon, on peut discuter éperdument de savoir si c'est tout à fait du Platon, enfin il y a tout de même cette idée que le philosophe doit régner parce qu'il a l'idée juste du monde vrai, du monde idéal. Et donc que la violence n'est qu'un phénomène transitoire, dû à ce que les hommes ne connaissent pas ce qu'il en est de la vérité de leur rapport, mais s'ils la connaissaient, évidemment, ils pourraient enfin surmonter ce qui les divise. Voilà, je dirais deux lignes, si vous voulez, très caractéristiques d'une espèce de logique un peu contradictoire, mais qui se décline de manière très diverse selon les cas. Alors, ces deux orientations, elles sont à la fois très vigoureuses et je dirais presque permanentes dans la pensée politique. Elles ne sont pas sans poser des problèmes. Je voudrais en indiquer deux, pour chacune d'entre elles. Alors la première attitude, évidemment, une très grande noblesse. C'est une attitude, en effet, qui ne veut pas se compromettre avec la violence, qui se retire au désert, qui se retire dans le monastère, qui se retire dans la solitude, qui ne veut pas, justement, comme je disais tout à l'heure, avoir les mains sales. Mais un des corollaires de cette position, c'est qu'elle abandonne l'histoire à sa violence et qu'elle cherche le salut ailleurs. Je ne cherche pas, si je suis sage, stoïcien, épicurien ou bouddhiste, à transformer le monde. Quelle idée bizarre. Parce que justement, je ne veux pas me compromettre avec la violence de ce monde, mais je laisse ce monde à sa violence. Je me retire sur l'Aventin, dans ma Thébaïde, mais je ne veux pas en aucune façon lutter contre la violence parce que j'estime que cette tâche est impossible. Mais ça veut donc dire qu'on laisse le monde à sa violence. Qu'on renonce à faire bouger les choses telles qu'elles sont et qu'on se replie sur une attitude d'intériorité pure. C'est un peu ce que Weber appellera la morale de conviction, une attitude pure, mais qui désespère finalement de la raison. On ne pense pas que le monde puisse être changé. Et si on y réfléchit, on s'aperçoit que c'est l'attitude de beaucoup de gens. Après tout, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en politique? Les choses sont ce qu'elles sont. À quoi ça sert? De toute façon, on ne fera qu'ajouter de la violence à la violence. Donc, restons tranquilles. Donc, ça peut avoir des nettes de noblesse très fortes dans certaines philosophies de haut niveau, un très bel idéal, et puis en même temps, aboutir à des conséquences quand même assez redoutables. Alors, je dirais, dans ce cas-là, on abandonne le paradoxe dont je parlais tout à l'heure, on laisse la violence par impuissance à la juguler, et on se retire du côté de l'idéal. C'est, me semble-t-il, quand même une très grande difficulté de cette position qu'on pourrait dire aussi idéaliste. Le monde est trop mauvais pour le transformer, donc moi je ne veux pas avoir affaire avec ce monde, je me retire de ce monde. La deuxième attitude, alors elle prend au contraire la politique très au sérieux, à l'inverse de la première, puisque elle veut en fait faire le lieu de la réhabilitation, le lieu de la cité heureuse. Elle veut à ce point repousser la violence qu'elle pense que la politique, la cité des hommes, peut être le lieu de la paix, de la justice, de l'idéal. Que le vrai et le bien peuvent être réalisés au fond de la caverne, pour employer à nouveau l'image, le mythe ou la parabole de Platon. C'est-à-dire qu'il est possible, à certaines conditions, de réduire le mal, voire même de le supprimer dans la cité idéale. Alors on pourrait dire que si la première attitude désespère de la raison, laissons le monde à sa violence et de toute façon nous serions vaincus et roulés par cette violence si nous essayons d'intervenir, cette attitude, au contraire, attend beaucoup de la raison. Et mon objection, mais je ne suis pas le premier ni le dernier à la faire, peut-être attend-elle trop de l'idéal? Attend-elle trop de l'idéal? Et peut-être méconnaît-elle ce que voit bien la première attitude, la ténacité de la violence, la difficulté d'arracher la cité des hommes à la violence. Et on peut en effet s'interroger comment mettre en place la cité idéale. Comment arriver à faire régner la justice ici-bas alors que les hommes se battent dans l'injustice, dans l'inégalité et dans la violence? Comment rendre effectif le projet de l'utopie ou de la raison? Alors là encore, il y a plusieurs solutions que nous aurons l'occasion d'évoquer plus au long. Je ne fais que les indiquer. Il y en a une qui consiste à dire il faut éduquer les gens. C'est d'ailleurs une des thèses de Platon qui a consacré beaucoup de pages au problème de l'éducation des citoyens. Il faut éduquer les citoyens. Bon, c'est une des grandes idées de la République, la Troisième République, de la philosophie des Lumières. Les hommes sont violents, mais on peut leur faire comprendre combien la violence est idiote, combien c'est idiot de se battre, combien on ne fait que rajouter à la violence en se battant. Et donc c'est par l'école, par l'éducation qu'on arrivera à faire comprendre que la méchanceté est finalement vaine et combien il est infiniment plus beau et plus heureux de vouloir la paix, la fraternité, la justice, etc. On peut dire que la grande tendance de la philosophie des Lumières, je pense ici à Condorcet, c'était ça. C'est l'idée que, en envoyant les enfants à l'école, on va les sortir du fanatisme. C'est ce qu'on voit encore aujourd'hui tout à fait clairement dans beaucoup de domaines. On peut les sortir du fanatisme, on peut les sortir de l'obscurantisme, des préjugés, et leur faire comprendre combien il est beau d'être un citoyen respectueux des lois, respectueux des autres, etc. Bon, grand idéal, magnifique. Bon, il y a un problème, c'est que est-ce qu'il est sûr que la violence se réduise à la non-raison ? Est-ce que les gens, les hommes sont violents simplement parce qu'ils ne comprennent pas ? Vous voyez, il y a toujours cette idée que si vous compreniez, vous verriez combien c'est idiot de tromper votre prochain, de tromper votre femme ou votre mari. Eh oui, selon, on peut tout à fait comprendre intellectuellement que c'est très vilain et être attiré malgré tout par la beauté de sa maîtresse ou de son amant. Et on peut avoir été beaucoup à l'école. Strauss-Kahn était très, très longtemps à l'école, certainement. Mais bon, il résiste mal devant la beauté féminine. Alors, est-ce qu'il faut l'envoyer encore un peu plus à l'école ou le mettre en prison ? Bon, je fais du humour déplacé. Mais le problème, c'est ça, c'est que si les populations résistent à l'éducation, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, il y a la solution de leur imposer l'idéal. Si l'on est assuré que l'idéal est juste et bon, alors on leur explique. S'ils ne leur expliquent pas, on va leur imposer. Il y a des lois, il y a une police, il y a des prisons, si vous ne comprenez pas. Et on aboutit à quoi ? Eh bien, à la tyrannie. La fameuse dictature du prolétariat. On aboutit à la tyrannie. C'est-à-dire qu'au nom de la vérité, au nom de l'idéal, au nom de la société sans classe et sans État, au nom du royaume de Dieu, charia, il y a un peu de ça, au nom de ce qu'on croit être l'idéal, eh bien, on va vous taper un peu sur les doigts et vous faire rentrer dans le rang. Bon, c'est quand même une des sources des totalitarismes. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point, qui est quand même un phénomène extrêmement inquiétant de la modernité. Donc, on risque d'imposer la raison par la violence, par des moyens non raisonnables, donc par la violence qu'on va évidemment justifier. C'est pour votre bien qu'on vous met en prison, c'est pour votre bien qu'on coupe quelques têtes, vous en faites pas, on n'en coupera pas beaucoup, mais ce qu'il faut, la terreur, c'est ça. Pour imposer l'égalité, bon, coupe les têtes qui dépassent, on n'en coupera pas beaucoup. Et oui, mais une fois que vous avez commencé à les couper, l'ennui, c'est que... où s'arrêter ? Alors, je dirais, et je vais conclure cette petite introduction là-dessus, que le paradoxe du politique, c'est précisément de ne pas rêver... Enfin, du moins, c'est la position que je vais tenter de défendre dans ce cours, de ne pas rêver du règne de la raison contre la violence, de ne pas prétendre qu'on va trouver la clé du mystère de la violence et qu'on va pouvoir le supprimer par un régime idéal, mais de faire tenir ensemble une multiplicité entre les hommes, une diversité qui est peut-être source de violence, sans la réduire à l'unité, qui peut aussi être source de violence. Mais tenter d'introduire de la raison dans les relations entre les hommes sans prétendre éteindre la violence. Voilà, je dirais, c'est ça le paradoxe du politique, du moins à mes yeux. C'est-à-dire de se tenir sur une ligne de crête où l'on ne renonce pas à introduire un peu de justice, de paix, de concorde, d'égalité dans le monde, sans prétendre pour autant qu'on va chasser à jamais le mal et la violence. Enfin, du moins, c'est la position que je vais essayer de défendre au long de ce cours. Donc, il ne s'agit pas d'une acceptation lasse et finalement paresseuse de la violence parce qu'on la déserterait, mais il ne s'agit pas non plus de prétendre trouver la solution miracle qui l'éradiquerait radicalement parce que je crois que ce projet... qui a malheureusement été mis en œuvre, est la source des pires violences. Voilà, c'est un peu, je crois, le paradoxe de la pensée politique et surtout de la pensée politique moderne. Voilà, alors, la philosophie politique s'intéresse à la politique parce que justement, elle rêve d'introduire de la raison dans les rapports humains, mais sans prétendre en chasser la violence. Et de ce point de vue-là, elle ne promet pas la cité idéale, même si certains philosophes en ont rêvé. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Je vous avais le plan sous les yeux. peut-être le modifierai-je en cours de route, je voudrais que nous partions de la référence aristotélicienne, non pas pour analyser savamment Aristote en lui-même, mais parce qu'il tient une thèse qui hante toujours la pensée politique, selon laquelle l'homme est un être naturellement politique. Et je voudrais, dans les premières séances, méditer sur cette formule, l'homme comme essentiellement, naturellement politique, parce que cette formule reste, comme je le disais, un peu la hantise des philosophes, et en même temps, la pensée moderne, pour des raisons que je vais expliquer dans ce cours, ne peut plus adhérer totalement à cette réflexion-là. Alors, je crois qu'il est bon de nous arrêter un peu pendant une séance ou deux, peut-être, sur cette pensée d'Aristote, c'est ce que nous allons faire dans le premier chapitre. Et puis, je voudrais que l'essentiel du cours, ce soit de montrer comment la pensée philosophique moderne s'est détachée de cette perspective et pourquoi. Pourquoi ce qu'on peut appeler la modernité politique a finalement rompu avec cette problématique, si haute soit-elle. Et donc, ce sera le chapitre 2, pourquoi finalement la pensée moderne, enfin certains aspects de la pensée moderne, s'est mise à distance de cette immense pensée d'Aristote, qui reste d'ailleurs toujours une pensée dont certains rêvent. Les communautariens américains rêveraient de revenir à cette position d'Aristote, et ça n'est pas sans raison. Alors, ceci posé, nous en viendrons après à regarder deux aspects apparemment contradictoires. L'importance mise dans la pensée philosophique moderne sur l'idée de souveraineté, ce sera le chapitre 3, et l'idée de l'État. Nous arrêterons ici en particulier à Bodin et un peu à Hobbes, qui va poser une relation de subordination qui est assez caractéristique par rapport à l'idée de souveraineté. Et nous verrons dans le chapitre 4 se substituer à cette idée de souveraineté de l'État, enfin se substituer, le mot n'est pas heureux, se surimprimer plutôt par rapport à cette idée de souveraineté, l'idée de souveraineté populaire qui est évidemment le grand ténor de cette perspective. Et ce que je voudrais montrer dans ce cours, c'est que la pensée politique moderne est faite de cette articulation entre la subordination à l'État et la coordination qui relève de la démocratie et de l'appel à la souveraineté du peuple. Et puis, dans une dernière partie, nous regarderons nous dirons quelques mots sur la place de l'éthique ou de la morale en politique. Je parlerai un petit peu de Robespierre et de quelques autres, mais aussi sur la place des religions dans l'espace politique. Comme je l'ai dit, nous aurons l'occasion de croiser à plusieurs reprises évidemment le christianisme, la théologie, si l'on veut, mais je crois qu'il est intéressant aussi de voir comment les religions se situent ou comment l'idée de souveraineté de l'État situe les religions par rapport à l'espace politique. Et ça nous met devant des problèmes tout à fait actuels que l'on voit autour des questions de biomédecine, mais simplement aussi de rapport entre l'Église et l'État, l'idée de laïcité, enfin, au moins en dire quelques mots. Est-ce que c'est à peu près clair? Donc nous aurons Aristote, la modernité avec ce double mouvement de souveraineté étatique et de souveraineté populaire, la démocratie, et puis un peu de réflexion sur la morale et politique. Alors, je vous fais passer une feuille de petite bibliographie. Je vais commencer. Bon, comme vous en doutez, évidemment, la littérature dans ce domaine est immense. Je ne prétends pas du tout donner une bibliographie complète, ce serait d'ailleurs ridicule. D'autre part, Le but, ce n'est pas nécessairement de lire beaucoup de choses, et par conséquent, je ne donne que quelques éléments qui me paraissent importants. Mais si vous souhaitez faire des travaux particuliers, vous pouvez toujours m'interroger pour aller plus loin. Alors, il y a trois petits paragraphes. Un premier paragraphe concernant les quelques grands classiques. Bon, on est toujours tenté de lire des ouvrages actuels, ce qui est important, mais je pense que l'objet d'un cours comme celui-ci, c'est l'occasion d'aller regarder quand même les grands classiques, hein, sans lesquels on ne comprend rien. Bon, je n'ai pas mis Platon, mais on pourrait mettre évidemment La République, mais c'est un grand livre. J'ai cité là les ouvrages dont je parlerai dans le cours, surtout. Alors, s'il y avait des choses à lire, ben, c'est souvent les choses les plus courtes qui sont les plus perspicaces. Alors, je crois quand même qu'on peut vous proposer de lire Le Prince de Machiavel, c'est un classique et ça n'est pas très long à lire. C'est beaucoup plus difficile à comprendre, ça c'est autre chose. Bon. Il y a aussi le livre, alors là j'en parlerai beaucoup, Le Citoyen, les fondements de la politique de Hobbes, qui est vraiment un texte aussi essentiel, c'est un peu plus long. Et puis il y a Le Contrat social de Rousseau. Là aussi, apparemment simple et en réalité très compliqué, parce que à la limite, à peu près personne ne comprend vraiment ce que le saint homme a voulu dire. Bon, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce livre. Voilà, donc au moins regardez ces trois classiques qui s'imposent vraiment et qui ne sont pas très longs. Alors, depuis une cinquantaine d'années, il y a un phénomène éditorial intéressant. Je cite des références françaises, mais si vous lisez l'anglais, l'espagnol ou l'italien en particulier, ou l'allemand, il y a des équivalents. C'est le phénomène du développement de dictionnaires. Tout à fait intéressant. Alors, j'en cite trois. Il y en a d'autres, mais enfin, le dictionnaire des œuvres politiques. Alors là, ce sont des œuvres, c'est-à-dire, vous avez un article sur le contrat social de Rousseau, sur la philosophie du droit de Hegel. Donc, on ne présente pas un auteur, on présente une œuvre. Donc, c'est une façon comme une autre d'entrer dans une œuvre et de s'aider à la lire. Tandis que le dictionnaire de philosophie politique, alors lui, procède par des entrées, le peuple, l'État, la démocratie, ce que vous voudrez, le droit, la loi, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu différent. Ça fait deux entrées diverses. Donc, si vous avez un travail à faire ou question que vous posez, c'est toujours intéressant d'aller consulter ces dictionnaires, car en plus, ils donnent en général une petite bibliographie à la fin de l'article. C'est donc intéressant. Et puis alors, l'Encyclopédia Universalis, qui est maintenant plutôt sur Internet, avait au début des articles tout à fait intéressants de très grands auteurs. Je cite État, démocratie, nation et autres. Bon. Alors, quelques livres qui seront des livres auxquels je me référerai. Je dirais, s'il y a des choses à lire, c'est, disons, les derniers en particulier. Vous pouvez regarder aussi Jean-Yves Calvez, Politique, une introduction, c'est assez clair et simple. Mais je cite en particulier Quentin Skinner, qui est un Américain, Les fondements de la pensée politique moderne, très beau livre, qui développe un peu, depuis au moins la Renaissance, la pensée politique, et en général, c'est un auteur tout à fait crédible, sérieux, et donc on peut tout à fait se fier. Et il y a beaucoup de choses aussi sur la pensée religieuse de Luther, de Calvin, enfin, il n'y a pas que les philosophes, il y a aussi des auteurs religieux, disons. Bon, alors le petit livre de Max Weber, c'est pas un livre, c'est deux conférences, Le savant et le politique. Il faut certainement lire la seconde, c'est pas très long. C'est le même sujet, Wissenschaft als Beruf, donc sur la science, la première partie, qui est un texte très intéressant aussi, et le second, Politik als Beruf, qui est un texte bref, qu'on doit lire, où se trouve le fameux développement sur l'éthique de conviction et de responsabilité, je reviendrai là-dessus. Voilà, puis les grands livres d'Éric Weil, auxquels j'ai déjà fait allusion tout à l'heure. Voilà, est-ce que là-dessus vous auriez des questions ? Voilà, alors, pour le déroulé des séances, de temps en temps, nous, après la fin d'un chapitre, disons, nous prendrons un peu plus de temps de discussion, avec des questions écrites que vous m'auriez éventuellement données. Mais j'aime bien, au début de chaque séance, prendre un petit temps de débat, si vous souhaitez, pour des questions concernant ce qui a été dit précédemment et qui ne serait pas clair, qui appellerait des compléments. Donc, pas vraiment une discussion, mais plutôt des mises au point au début de chaque séance, pour ne pas laisser traîner des choses qui ne seraient pas claires. Voilà, bon, alors nous allons regarder ce brave Aristote. Et je vous donne à nouveau des textes. Tout le monde a eu des textes, oui? Tu n'as pas... Sinon, ils vont en faire photocopier. Alors, nous allons... J'en ai une moi-même. Voilà, je ne vais pas faire de développement sur la vie d'Aristote. On trouve ça dans tous les dictionnaires ou sur Internet. Donc, Aristote, c'est le 4e siècle avant Jésus-Christ, 384-322. Je voudrais m'arrêter, puisqu'il ne s'agit pas de faire une présentation d'ensemble de la pensée d'Aristote, sur la célèbre formule qu'on trouve dans l'éthique à Nicomaque. L'homme est par nature politique. Bon, j'écris cette formule. Par nature, naturellement, politique, ô anthropos. Anthropos, c'est homme et femme, hein, c'est pas le mâle, c'est ô anthropos, c'est l'homme. L'homme est, donc c'est une formule qui se trouve dans l'éthique à Nicomaque, qui est le grand livre sur la morale d'Aristote, au livre 1, chapitre 7, et c'est la phrase 1097b5. Alors vous avez beaucoup de, si vous voulez, c'est un texte évidemment aussi à lire, il y a beaucoup de traductions, en particulier dans Garnier Flammarion, et puis l'autre livre d'Aristote que j'ai donné dans la bibliographie, c'est Les Politiques d'Aristote, aussi chez Garnier Flammarion. Bon, donc je voudrais réfléchir sur cette phrase parce qu'elle est souvent, elle est comme j'ai dit un peu tout à l'heure, une référence très forte qui hante un peu la pensée politique, mais elle est aussi la source de beaucoup de contresens. Et comme vous savez, ce terme de nature, on le voit à nouveau dans les débats actuels de biomédecine, qui est repris souvent dans les documents de l'Église catholique, est un mot qu'on a beaucoup de peine à comprendre. Et donc je crois qu'il faut insister sur la difficulté et sur la nécessité de tâcher de comprendre ce qu'Aristote voulait dire. Bon, bien entendu, pour Aristote, la nature ne produit pas de régime politique. Elle ne produit pas de constitution politique. Donc on ne trouve pas des régimes politiques comme on trouve des requins dans la mer ou qu'on trouve des arbres dans les forêts. Donc il faut éviter ce contresens idiot qui consiste à dire « Ah oui, nature, vous pensez que, voilà, de même qu'il y a des arbres dans une forêt et des poissons dans la mer, il y a des... la politique serait naturelle en ce sens-là. » Bien sûr que non. Nous allons le voir, Aristote est parfaitement conscient, d'ailleurs il serait idiot sans ça, que l'espace politique, c'est les hommes qui le construisent, qui se donnent des constitutions. Et comme je disais tout à l'heure par allusion, Aristote est parfaitement conscient que ces régimes sont transitoires. Mais on pourrait dire que c'est un peu comme dans la nature, les espèces naissent, se développent et puis meurent. Mais d'une certaine façon, en effet, les régimes politiques sont de ce type. Mais Aristote est parfaitement conscient que l'espace politique dépend des hommes. Mais encore faut-il qu'il veuille cet espace. Parce qu'en réalité, pour Aristote, on pourrait même dire, vous allez voir pourquoi, la politique est, par certains côtés, contre nature, parce qu'elle va contre un certain nombre de tendances spontanées de l'homme. Elle organise, selon des lois, les rapports humains. Elle impose des choses aux rapports humains. Mais il va de soi, il est naturel que la politique, à moins de tomber dans l'injustice et la violence, impose des lois aux hommes. Et en gros, c'est ça la position. C'est que, bien sûr, la politique, ou la cité, comme il dit, la cité ne se trouve pas dans la nature, mais il est naturel que les hommes vivent en cité, et que vivant en cité, ils vivent selon des lois et des mœurs qui vont s'imposer à eux. Alors, évidemment, par rapport à ce propos très général, un esprit moderne, c'est-à-dire nous sommes tentés de dire, ben si, la politique, c'est ce que les hommes font, les institutions qu'ils créent, pourquoi continuer à parler de nature? Que veut dire cette référence? La nature, fusis, peut-elle servir de référence, de norme, de modèle d'intelligibilité, sans qu'on renonce, en fait, à entendre seulement ce que politique veut dire? Bon, on pourrait transposer ça dans le domaine moral, n'est-ce pas? Quand on entend certains documents ecclésiastiques parler de nature, on va dire, ben voilà, vous cherchez à imiter la biologie, et la biologie ne donne pas de règles de conduite, c'est donc complètement idiot. Alors il faut toujours se méfier de ce genre d'argument, parce que quand on traite quelqu'un de complètement idiot, c'est que forcément on n'a pas compris ce qu'il disait. Parce que les documents ecclésiastiques ne sont peut-être pas toujours très malins, enfin ils ne sont pas non plus complètement stupides. Donc il faut regarder à deux fois avant de dire le mot nature n'a aucun sens. J'insiste là-dessus parce que c'est ce qu'on dit pour Aristote. S'il parle du mot nature, par nature, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça ne veut certainement pas dire ce que je viens de repousser, à savoir qu'Aristote pense que les cités poussent comme des champignons dans une forêt. Il est bien conscient que s'il revient aux hommes de se donner des constitutions, mais qu'il va de soi, voilà le mot nature, il va de soi qu'il s'en donne. Ils ne peuvent pas faire autrement que de s'en donner. Voilà, je dis, un peu, autant je la comprenne, la position. Il va de soi qu'il n'est pas possible que les hommes soient des hommes sans une cité. Il est naturel qu'ils soient politiques. Vous voyez, il est naturel qu'ils soient politiques. Mais la politique n'est pas dans la nature. Il ne suffit pas d'attendre que la pluie tombe ou que les constitutions vous tombent dessus. Il faut les faire et elles peuvent se dégrader. Bon, alors, je crois que plutôt que de faire des discours, on peut lire le texte d'Aristote, et puis je le commenterai rapidement, à la fois en le lisant et après. Donc, c'est tout à fait au début. Là, je prends un texte de la politique au livre 1, donc dans ce qu'ils appellent, eux, ici, les politiques, parce qu'il y a plusieurs textes qu'on a rassemblés, enfin, peu importe. Comme vous savez, d'Aristote, hein, souvent que des morceaux détachés, et pas d'œuvres continues, sauf dans tel ou tel cas, peu importe. Alors je commente, puis je lis et puis nous commenterons. Puisque toute cité, donc c'est la polis, hein, nous le voyons, est une certaine communauté, et que toute communauté est constituée en vue d'un certain bien, car c'est en vue de ce qui leur semble le bien que les hommes font ce qu'ils font, il est manifeste, donc il va de soi, que toutes les communautés visent un certain bien. Et que, avant tout, vise le bien suprême entre toutes, celle qui est suprême entre toutes, c'est-à-dire celle qui contient toutes les autres. C'est celle qu'on appelle la cité ou communauté politique. Voilà, un texte tout à fait dense qui donne à la politique, à la cité, polis, la prévalence. C'est la communauté des communautés, sans laquelle toutes les autres communautés ne pourraient pas subsister, ou subsisteraient mal. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une communauté agricole dans une ferme. Un paysan cultive ses champs, élève ses troupeaux, avec des employés, ses enfants, sa femme, etc. C'est une communauté agricole. Cette communauté, elle vise un bien, à savoir que cet agriculteur veut gagner sa vie, aime ses troupeaux, veut les vendre, etc. Et donc, il cherche à bien faire, être un bon éleveur de troupeaux. Mais cette communauté, si elle était toute seule, elle ne pourrait pas assurer, par exemple, sa sécurité. Le paysan a besoin de savoir que sa propriété est à l'abri des voleurs et des cambrioleurs, ou à l'abri des bandes étrangères qui viendraient faire des razzias sur ses champs. Donc il a besoin d'une sécurité que lui-même ne peut pas se donner. Il ne peut pas entretenir des troupes, il ne peut pas entretenir des tribunaux. Donc il a besoin d'une plus grande communauté qui sera la communauté politique. Et on pourrait dire la même chose, je vais y revenir tout à l'heure, de la famille. La famille, pour Aristote, est une communauté qui vise un certain bien, à savoir l'union de l'homme et de la femme et la procréation, on va lire le texte tout à l'heure, mais cette communauté qui vise un bien, le bien de ceux qui en font partie, elle est une communauté qui a besoin de s'enraciner dans une plus grande communauté. On voit déjà qu'elle a besoin de viande et de lait, donc elle a besoin d'agriculteurs qui vont lui donner ce qu'il faut. Mais elle a besoin, elle aussi, de la sécurité, etc., de lois, et ainsi de suite. Mais la communauté des communautés, c'est-à-dire celle qui permet à toutes les autres de chercher leur bien, et qui est donc le bien suprême, c'est la cité. Polis. Je mets le mot au tableau. Aristote parle de la cité. Alors, on lit la suite, puis on s'arrête un petit peu. Si nous examinons le développement des réalités à partir de leur origine. Alors voilà, je vais revenir tout à l'heure dans le commentaire. Le point de vue d'Aristote, il est double. Comme vous savez, Aristote était un grand observateur, on pourrait dire, aujourd'hui on dirait un grand scientifique, en biologie, les plantes, etc., très grand observateur. Donc, il a un premier regard d'observation. Et il a un second regard anthropologique, philosophique à proprement parler. Et on reviendra sur les deux aspects. Si nous examinons le développement, si nous regardons, comme on regarderait finalement des animaux se comporter dans un groupe. Si nous examinons le développement des réalités à partir de leur origine, très important pour lui, comme nous le faisons dans les autres domaines, il est possible dans notre présent domaine, c'est-à-dire en politique, d'en obtenir la conception la plus satisfaisante possible. Ainsi, il est tout d'abord nécessaire que s'unissent les êtres qui ne peuvent être l'un sans l'autre. Le mariage. Vieux discours, toujours actuel. Par exemple, d'abord, la femme et l'homme, en vue de la reproduction. On dira naturalisme, l'amour, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Et il observe que les enfants, ils naissent d'une relation de l'homme et de la femme. On dirait c'est une évidence, mais qui n'est pas, semble-t-il, évidente pour tout le monde. Bon, enfin, Aristote, un peu grossier, voit que de l'union de l'homme et de la femme, ils naissent des enfants. Il dit, vous observez, vous voyez que... Et c'est absolument essentiel pour la société. S'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'avenir à la société. Et cette union n'a rien d'arbitraire, n'est-ce pas? Mais, comme dans le cas des autres animaux et plantes, il y a là une tendance naturelle à laisser après soi un être autre mais semblable à soi. Donc vous voyez, il y a en même temps l'observation et puis déjà un argument de type, disons, philosophique, anthropologique. L'homme a besoin de se reproduire, il désire se reproduire. Il désire laisser après lui un autre que lui-même, comme d'ailleurs les animaux. Ou encore, celui qui commande et celui qui est commandé, et ce, par nature, en vue de leur mutuelle sauvegarde. Je prenais l'exemple tout à l'heure du paysan, eh bien, il y a celui qui commande, qui dit, voilà, on va aller traire les vaches à telle heure, ou aujourd'hui on ne le fait pas, ou on va les mener dans le pâturage, ou aujourd'hui on n'y va pas parce qu'il y a une tempête qui s'annonce. Il y en a un qui commande, et il y en a qui sont subordonnés. Donc, premier rapport, l'homme et la femme. Deuxième rapport, si on parlait en termes hegéliens, le maître et le subordonné, si on ne veut pas parler d'esclaves. Mais on parlera d'esclaves, puisqu'Aristote en parle lui-même. Donc, quand on observe une société humaine, on s'aperçoit qu'il y a des hommes et des femmes qui se reproduisent, qui donnent des enfants, première petite communauté. On s'aperçoit que même dans cette communauté-là, il y en a un qui commande et il y en a un qui obéit. Être capable de prévoir intellectuellement, c'est avoir par nature la capacité de commander. Ça, c'est très intéressant. À quoi Aristote attribue-t-il la capacité de commander ? À l'anticipation. n'est pas la contrainte, c'est capable de commander. Ben, le paysan qui dit, il y a un orage qui arrive, il ne faut pas emmener les troupeaux au pré. Ben, il a anticipé l'orage. Ben, le berger lui-même, il n'a pas besoin d'anticiper, il attend les ordres. Et est habilité à commander celui qui est capable d'anticiper. Prévoir intellectuellement, c'est avoir par nature la capacité de commander, c'est-à-dire être maître par nature, mais être capable d'exécuter physiquement ce qui est commandé, c'est être par nature, alors on verra les problèmes que ça pose, destiné à être commandé et à être esclave. C'est ce qui fait que maître et esclave ont même intérêt. Ils ont même intérêt. Évidemment, le berger n'a pas intérêt à ce que le troupeau soit décimé par l'orage. Donc il a intérêt à obéir, pas par contrainte. Quant à la communauté formée de plusieurs villages, c'est la cité achevée qui déjà atteint une sorte d'autarcie complète. Autonomia, très important. La cité jouit de l'autonomie. La ferme, la famille dépendent de la cité. Mais la cité, elle, est autonome. Sa genèse s'explique par les nécessités vitales, mais quand elle existe, elle permet en plus une vie heureuse. Nous reviendrons là-dessus. Eudémonia. C'est pourquoi toute cité est naturelle, comme le sont les premières communautés qui la constituent, car elle est leur fin, et la nature est fin. Car ce que quelque chose est une fois que sa genèse est complètement achevée, nous disons que c'est la nature de cette chose, ainsi pour un homme, un cheval, une famille. De plus, le « ce en vue de quoi », ce qu'il appelle la cause finale, ce en vue de quoi la chose se développe, c'est-à-dire la fin, c'est le meilleur. Et l'autarcie est à la fois la fin et le meilleur. Nous en déduisons qu'à l'évidence, la cité fait partie des choses naturelles et que l'homme est par, voilà la fameuse phrase, l'homme est par nature un animal politique. Si bien que celui qui vit hors cité, naturellement bien sûr, et non pas par le hasard des circonstances, quelqu'un qui se serait perdu ou bon, est soit un être dégradé, soit un être sous-humain. Il est, comme celui qu'Homère injurie en ces termes, sans lignage, sans loi, sans foyer. Car un tel homme est du même coup naturellement passionné de guerre, voyez la violence, il est comme une pièce isolée au jeu de tric-trac. C'est pourquoi il est évident que l'homme est un animal politique, bien plus que n'importe quelle abeille ou n'importe quel animal grégaire, car, nous le disons souvent, la nature ne fait rien en vain et seul parmi les animaux, l'homme est doué de parole. Alors, je prends le dernier paragraphe au revers de la page. C'est donc par nature qu'il y a chez tous les hommes une tendance à constituer une telle communauté. Il n'en est pas moins vrai que le premier qui la constitua fut cause des plus grands biens. Car le fait même qu'un homme accompli est le meilleur des animaux, quand il a rompu avec la justice et la loi, il est le pire de tous. Et la plus terrible des injustices est celle qui a des armes. Or l'homme qui vient au monde pourvu d'armes qui doivent le rendre sage et l'homme vient au monde pourvu d'armes qui doivent le rendre sage et vertueux, mais il peut en user pour des fins absolument inverses. C'est pourquoi l'homme est tellement impie et féroce quand il est sans vertu, et il est le pire des animaux dans les plaisirs sexuels et ceux du ventre, et la vertu de justice appartient au domaine politique, car c'est la notion de juste qui introduit un ordre dans la communauté politique, et le pouvoir judiciaire marque la frontière entre le juste et l'injuste. Alors vous voyez en gros la thèse, mais je vais y revenir. L'homme n'est vraiment homme que dans la cité. Hors de la cité, il est comme une pièce détachée dont on ne sait pas quoi faire, où il est une brute, car c'est dans la cité qu'il trouve les lois et les mœurs qui lui permettent de contenir sa violence. C'est pourquoi la cité est le plus grand des biens, la meilleure des communautés, parce qu'elle permet à l'homme d'être vraiment homme, pas un animal livré à ses passions, pas un dieu non plus, parce qu'il a des besoins sexuels, économiques, de toutes sortes, mais la cité lui permet précisément de réaliser au moins mal, au mieux, son humanité. Voilà, nous faisons une petite pause, si vous voulez bien. Je reviendrai sur le commentaire de ce texte. Alors, je reprends ce petit commentaire rapide. Alors, comme je l'ai dit, je crois qu'il faut, c'est très important parce que ça jette un peu de lumière et ça pose aussi un problème. Il faut bien distinguer chez Aristote deux types d'argumentation. D'abord, c'est à peine une argumentation, mais c'est le niveau de l'observation, et puis le niveau proprement anthropologique. Alors, le niveau de l'observation, c'est celui que nous avons constaté, que nous avons remarqué, c'est qu'Aristote observe, donc il a un petit côté du sociologue, de l'observateur, il observe la genèse des groupes. Quand il dit qu'il faut regarder l'origine, c'est ça, d'où viennent-ils, à partir de quoi naissent-ils? Bon, le groupe familial, il naît du désir qui rapproche l'homme et la femme et du désir qu'ils ont l'un et l'autre de se reproduire. Donc, si l'on veut comprendre ce qu'il en est de la famille, c'est à cette origine qu'il faut remonter. La famille n'est pas d'abord un rassemblement économique, on ne cherche pas à multiplier des biens, ça c'est ce que va faire l'entreprise, l'agriculteur, et on ne cherche pas non plus à se défendre, ça c'est l'armée qui a ce but. Donc l'origine de l'armée, c'est éventuellement de se défendre contre l'ennemi. La source de la relation familiale, conjugale, c'est à la fois l'union de l'homme et de la femme et la reproduction. Donc il cherche la genèse des groupes, des associations humaines, et il note, c'est un point tout à fait capital, qu'il y a une diversité des regroupements entre les hommes, qu'il ne faut pas tout confondre. Et il y a dans ces textes implicitement une critique de son maître Platon. Comme vous savez, les disciples sont toujours infidèles au maître, les aiment bien, et en même temps, il faut tuer le père, et Aristote a quand même un peu contribué à tuer son maître Platon tout en l'admirant. Alors, ce qu'il combat, c'est ce qu'on a appelé le communisme platonicien. C'est l'idée qu'effectivement, il y aura communauté des enfants, communauté des femmes et des hommes dans la cité idéale. Là, du moins, c'est ce qu'il dit dans les lois. Donc, il y aura une sorte de communisme où toutes les communautés seront fondues les unes dans les autres. Alors ça, Aristote n'en veut absolument pas. D'abord parce qu'il observe que ce n'est pas ce qui se passe et qu'il est bien, là on est déjà au niveau de l'anthropologie, qu'il est bien qu'il en soit ainsi. Il faut qu'il y a des groupes ethno-géographiques, des villes, des villages. Bon, quand on parcourt un pays, on s'aperçoit qu'il y a ces rassemblements-là. Il y a d'autres rassemblements qui sont davantage liés à la nature de l'homme, donc qui sont moins géographiques, par exemple les familles, la relation de l'homme et de la femme, qui structurent une relation de paternité et de filiation. Il y a les groupes économiques à proprement parler, on se réunit pour faire de l'élevage, ou pour produire des souliers, pour produire des meubles, etc. Et Aristote est très sensible aux lits qu'on fabrique, aux tables qu'on fabrique, aux artisans. Donc il y a des groupements plus économiques que d'autres, la famille n'a pas directement à s'occuper de ça, et dans la vie économique, eh bien, c'est pas la relation conjugale qui domine, on ne produit pas des enfants mais des biens, et toutes ces relations sont elles-mêmes structurées par une relation de maître et d'esclave, c'est que partout on constate qu'il y a des personnes qui commandent et d'autres qui obéissent, c'est ainsi. Alors ces micro-sociétés, le mot est de moi, micro-sociétés, aux yeux d'Aristote, elles sont absolument essentielles. On les observe et elles sont essentielles parce que chacune a une spécificité propre. Chacune a une spécificité propre. Ça, c'est très aristotélicien. Ce souci de prendre en compte les réalités telles qu'elles sont. Donc, il y a un refus, je dirais, dans la position d'Aristote qui me paraît, aristotélicienne, qui me paraît très heureuse, de tout mélanger. Bien sûr qu'il y a un côté économique dans une famille. Bien sûr qu'il y a un côté affectif dans l'entreprise, mais attention, ne confondons pas tout, il y a une spécificité et il est bon qu'il en soit ainsi. Sinon, on blesse la réalité. À nouveau, critique du communisme platonicien. Et il en est ainsi parce que finalement, chacune a une finalité. Très important ce mot de finalité pour Aristote. La finalité de la famille, donc l'amour de l'homme et de la femme et la reproduction, est une finalité spécifique qu'on ne trouve évidemment pas chez le paysan et qu'on ne trouve pas non plus dans l'armée. L'armée, elle a une finalité propre qui est de défendre la cité contre les ennemis. Bon, ça c'est sa finalité propre et il ne faut pas tout confondre. Et il ne faut pas demander à la famille de se défendre elle-même. Le bonheur de chacun tient dans le fait qu'on sait qu'il y en a d'autres qui vous assurent la sécurité. La famille peut être tranquille, élever ses enfants tranquillement, parce qu'elle sait qu'il y a des militaires qui veillent sur les remparts de la cité. Donc, chaque finalité vise un certain bien, très aristotélicien, vise un certain bien. L'agriculteur vise le bien de sa ferme et à travers ça, le bien des autres, puisqu'il va produire des animaux, du lait, du beurre, enfin, tout ce que vous voudrez, des fromages et ainsi de suite. Bon, mais chacune de ces petites communautés qui produit un bien dans lequel les hommes sont heureux de vivre, elles ne sont pas suffisantes en elles-mêmes. Elles ont besoin les unes des autres. Le paysan a besoin, ben évidemment, d'avoir des enfants, il a besoin d'une armée, il a besoin de menuisiers, et tous sont finalement, ça c'est un thème qu'on trouverait chez Platon, donc il y a bien une communication. Hein, chacun n'est pas enfermé dans lui-même, chacun a besoin des autres. Mais ils ont surtout besoin de cet ensemble plus vaste qui est la cité. La cité est d'une certaine façon la communauté la plus large, complémentaire, et celle qui se suffit à elle-même. Voilà, elle n'a pas d'autre finalité qu'elle-même. Ça, c'est une grande idée d'Aristote. N'est-ce pas ? La cité n'a pour but que de rassembler les hommes dans la justice et dans la paix. Et finalement, chacune des petites communautés trouve son bien dans le fait que la cité assure la sécurité, la paix et la justice. Et la finalité de la cité, c'est ça. Alors ça nous fait déboucher dans la deuxième argumentation, que j'appelle moi anthropologique, si vous voulez, ou plus éthique. La cité constitue le bien suprême. Alors il faut faire attention, hein, Aristote n'est pas du tout un esprit totalitaire où c'est la cité qui donne le bien aux autres. N'est-ce pas, l'idée totalitaire serait c'est la cité qui va donner. Mais non, le couple, la famille trouve son bien à s'aimer, à avoir des enfants. C'est pas la cité qui leur donne le bonheur, c'est eux qui le trouvent eux-mêmes. Mais la cité leur permet d'avoir leur bonheur parce qu'elle assure la sécurité, elle assure la circulation des biens, elle assure le commerce, elle assure la justice, etc. Mais la cité est le plus grand des biens. Alors je vais lire un ou deux passages rapides dans l'éthique à Nicomaque. Dans l'éthique à Nicomaque, on a d'abord cette formule. Nous affirmons que ce que nous recherchons pour soi est plus parfait que ce qui est recherché pour une autre fin. Donc ce qui est cherché pour soi, c'est-à-dire gratuitement, pour lui-même. C'est mieux, alors c'est un jugement évidemment qu'on pourrait discuter, mais je trouve que c'est une très belle idée, c'est mieux que ce qui est voulu pour autre chose. Et le bien qu'on ne choisit jamais qu'en vue d'un autre n'est pas si souhaitable que les biens considérés à la fois comme des moyens et comme des fins. Et tout uniment, le bien parfait est celui qui doit toujours être possédé pour soi et non pour autre chose. Tel paraît être au premier chef le bonheur, eudaimonia. Eudaimonia, c'est ce que nous cherchons pour lui-même. Grand thème de l'anthropologie aristotélicienne. Les hommes cherchent le bonheur pour lui-même. Ils cherchent ce bien suprême, faisons très attention à ceci, à travers les biens particuliers. L'agriculteur cherche le bonheur à travers la réussite de sa ferme. Le couple cherche le bonheur à travers la réussite de son couple. Mais il y a un bonheur à être ensemble. C'est le bonheur de la cité. Le couple s'aime, et d'une certaine façon, c'est un bien secondaire par rapport à d'autres. Parce que s'il y avait, disons, une guerre civile, si les ennemis étaient à la porte, ben, ils ne pourraient pas s'aimer, ils ne pourraient pas avoir d'enfants. Donc, d'une certaine façon, c'est un bien subordonné à un bien plus grand. Mais le bien de la cité, c'est le bien parfait lui-même. Tel est le bonheur, car nous le cherchons toujours pour lui-même et jamais pour une autre fin. Pour les honneurs, le plaisir, la pensée, toute espèce de mérite, nous ne nous contentons pas de chercher à les atteindre en eux-mêmes, car même s'ils devaient demeurer sans conséquence, nous les désirerions tout autant, nous les cherchons aussi en vue du bonheur, donc ces autres biens, nous les cherchons en vue du bonheur, car nous ne figurons que par eux, nous pouvons l'obtenir. Mais le bonheur n'est souhaité par personne en vue des avantages que nous venons d'indiquer, ni en un mot pour rien d'extérieur à lui-même. Voilà l'autosuffisance. Il se suffit à lui-même. Il cherche le bonheur pour lui-même. Or, il est évident que ce caractère provient du fait qu'il se suffit entièrement. Le bonheur se suffit entièrement. On en jouit pour lui-même. Le bien suprême, selon l'opinion publique, l'opinion commune, se suffit à lui-même. Et quand nous nous exprimons ainsi, nous entendons qu'il s'applique non pas au seul individu menant une vie solitaire, mais encore aux parents, aux enfants, en un mot, aux amis et aux concitoyens, puisque de par nature, l'homme est un être politique. Mais il faut fixer à cette notion une limite, car en l'étendant aux ascendants et aux descendants et aux amis de nos amis, on recule à l'infini. Il nous faudra examiner ce point plus tard. Mais nous posons en principe que ce qui se suffit à lui-même, c'est ce qui, par soi seul, rend la vie souhaitable et complète. Voilà le caractère que nous attribuons au bonheur. Et puis alors, un autre passage encore plus impressionnant, aussi au début du premier livre, « Comme la politique utilise toutes les autres connaissances. » Je commence plus. Bon, il est évident que cette fin dernière, que les hommes recherchent, peut être le bien et même le bien suprême, le souverain bien. N'est-il pas exact que par rapport à la vie, la connaissance de ce bien a une importance considérable et que le possédant, comme des archers qui ont sous les yeux le but à atteindre, nous aurons des chances de découvrir ce qu'il convient de faire. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie humaine? Eh bien, voilà, la visée, c'est le bonheur. Donc, ça va avoir des conséquences politiques. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour organiser la vie commune de telle sorte que les hommes trouvent leur bonheur? Non pas que la cité leur donne le bonheur, mais qu'ils trouvent, à travers leurs parents, leurs amis, etc., leurs activités économiques, le bonheur. N'est-il pas exact par rapport à la vie, la connaissance de ce bien a une importance considérable et que la possédant comme des archers qui ont sous les yeux le but à atteindre, nous aurons des chances de découvrir ce qu'il convient de faire. S'il en est ainsi, il nous faut s'efforcer de préciser, même d'une manière sommaire, la nature de ce bien et de dire de quelle science, de quelle connaissance il relève. Il peut sembler qu'il dépend de la connaissance souveraine et au plus haut point organisatrice, et c'est le politique. Elle détermine quelles sont les connaissances indispensables dans la cité, fixe ce que chaque citoyen doit apprendre et dans quelle mesure. Comme la politique utilise les autres connaissances pratiques, qu'elle légifère sur ce qu'il faut faire et éviter, la fin qu'elle poursuit peut embrasser la fin des autres connaissances au point d'être le bien suprême de l'homme. Quoique le bien de l'individu s'identifie avec celui de la cité, je vais revenir là-dessus, il apparaît bien plus important et plus conforme aux fins véritables de prendre en main et de sauvegarder le bien de la cité. Le bien, certes, est désirable quand il intéresse un individu pris à part, mais, voilà une phrase magnifique, son caractère est plus beau et plus divin quand il s'applique à un peuple et à des ethnies entières. Donc, le bien suprême, c'est le bonheur, mais c'est un bonheur qui passe à travers les biens particuliers, et que la cité autarcique permet. Donc je dirais, voilà la justification anthropologique de la politique et de la cité. Elle doit assurer les biens particuliers à travers ce bien suprême, le bien commun suprême, qui est le bonheur, finalement, d'être ensemble, le bonheur de vivre ensemble. Alors, je suis d'ailleurs toujours le plan, je vais ensuite dire quelques conséquences de cette thèse. Je voudrais ajouter encore un autre point. Quelle est la spécificité du politique? Eh bien, la spécificité du politique, elle tient en deux éléments. Elle se trouve d'abord dans le logos, c'est-à-dire dans les mœurs, et elle se trouve dans la justice organisé dans des lois. Alors, une des caractéristiques de l'homme, c'est justement d'être un être politique par nature, mais ce qui caractérise l'homme parmi tous les autres animaux, c'est le logos, c'est-à-dire la parole. Alors, je vais lire le... Voilà, en bas de la page 1. Bon, il est évident que l'homme est un animal politique bien plus que n'importe quelle abeille ou n'importe quel animal grégaire. Bon, Aristote voit bien, en effet, que les animaux vivent en groupe. Ils vivent en société. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? La nature ne fait rien en vain. Et seul parmi les animaux, l'homme est doué de parole. Certes, la voix sert à signifier la douleur et le plaisir, et c'est pourquoi on la rencontre chez les animaux. Un animal qui souffre ou combat, se met à hurler. Car la nature s'est hissée jusqu'à la faculté de percevoir douleur et plaisir et de se les signifier mutuellement. Donc les animaux ont un langage. Aristote ne le dit pas du tout. Ils ont un langage. Mais la parole humaine existe en vue de manifester pas seulement les réactions immédiates à la souffrance ou au plaisir. C'est moi qui rajoute ça. La parole existe en vue de manifester l'utile et le nuisible. Puis aussi, par voie de conséquence, le juste et l'injuste. C'est ce qui fait qu'il n'y a qu'une chose qui soit propre aux hommes et les sépare des autres animaux, la perception du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et autres notions de ce genre, et avoir de telles notions en commun, voilà ce qui fait une famille et une cité. Donc, l'homme est naturellement politique, mais beaucoup d'animaux aussi ont des sociétés. Qu'est-ce qui fait la caractéristique spécifique de la société politique humaine? C'est la parole. La parole veut dire quoi? La capacité de dire le juste et l'injuste, de dire le bien et le mal. L'animal réagit par des cris au plaisir sexuel ou à la douleur. L'homme est capable d'aller au-delà pour poser, au fond, cet invisible qu'est le bien et le mal. Et la caractéristique précisément de l'homme, c'est cette parole, le logos. Ce qui caractérise l'homme, c'est le logos, c'est-à-dire la capacité de dire le bien et le mal, le juste et l'injuste. On peut lire le haut de la page suivante. De plus, la cité est par nature antérieure. Alors, par nature antérieure, ça ne veut pas dire qu'elle a été faite avant, mais ça veut dire que logiquement, la famille ou les groupes divers présupposent la cité, car le tout est nécessairement antérieur à la partie. Antérieur, ça veut dire logiquement antérieur à la partie. Car si le tout est détruit, il n'y a plus ni main ni pied, si ce n'est par homonymie, comme quand on parle d'un pied ou d'une main de pierre, car ils ne seront ainsi séparés du tout qu'après la mort, et toutes les choses se définissent par leur fonction et leur potentialité. Si bien que quand elles n'ont rien conservé de ces propriétés, il ne faut pas dire que ce sont les mêmes choses, mais qu'elles n'ont plus de commun que le nom. Donc un pied qui n'est plus qu'un pied, n'est même plus un pied, c'est une chose. Le pied n'est pied que dans, il est repris dans la totalité du corps. Que donc la cité soit à la fois naturelle et antérieure à chacun de ses membres, c'est évident. Et s'il est vrai en effet que chacun pris isolément n'est pas autosuffisant, il sera dans la même situation que les autres parties vis-à-vis du tout. Aussi, celui qui ne peut pas appartenir à une communauté ou qui n'en a nullement besoin parce qu'il n'en éprouve nullement le besoin, n'étant rien une partie de la cité. Il est une bête ou un dieu. C'est donc par nature qu'il y a chez tous les hommes une tendance à constituer une telle communauté. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Alors, le point essentiel, c'est que le logos organise la cité par le langage, pose le bien et le mal, et donc le deuxième aspect, c'est que la cité pose des lois, c'est-à-dire une justice qui va permettre à chacun de trouver son bien, justice qui va assurer, par exemple, la propriété de l'agriculteur ou la propriété de l'artisan, qui va protéger la famille des vols et éventuellement des adultères. Donc, une justice organisatrice de la cité. Justice par les lois. Donc, ce qui fait la cité humaine, c'est à la fois les lois et les mœurs, les façons de vivre, le logos, le langage raison. On pourrait donc dire que le logos est ce milieu où l'homme trouve la codification des manières humaines d'agir, l'éthos. C'est la cité, par les liens qu'elle tisse, qui assure l'éthos, c'est-à-dire les mœurs communes et la justice. Et donc, en ce sens, on peut parler, comme le paragraphe que nous avons vu, d'une antériorité, parce que ce tout est présupposé pour que tout le reste tienne debout. Sans ce tout, ben, tout se délie. Alors, ça, c'est un thème dont nous allons voir que la pensée moderne va prendre son congé. Mais je le note ici avec force, c'est la totalité qui donne sens aux individus et aux particuliers. Donc, attention, le tout ici ne se substitue pas aux éléments. La famille, les ethnies, les villages, les entreprises ont leur finalité propre et il ne s'agit pas du tout que la cité se substitue à ses biens. Aristote n'est pas du tout un communiste ou un socialiste, il a même horreur de cette pensée platonisante. Chacune de ces entités a sa finalité, mais la cité a évidemment aussi la sienne. Voilà, donc la communauté politique a cette finalité particulière qui est celle qui découle de la nécessité du soutien mutuel, ce que Hegel appellera le système des besoins, mais elle tient sa spécificité proprement humaine dans le fait qu'elle règle la justice. Donc grâce à la justice, un ordre est établi, sont instituées des règles et des lois qui visent à écarter l'injustice et la violence des relations. Et c'est pourquoi, aux yeux d'Aristote, l'homme ne serait pas vraiment homme sans cette organisation de la cité. Il n'est vraiment homme que dans une cité. Il n'est vraiment homme que s'il est politique, c'est-à-dire s'il vit dans une cité qui lui donne des mœurs réglées et des lois auxquelles obéir. Et on comprend par conséquent qu'il est donc naturel, selon ce qu'il en est de l'homme, qu'il ne vive pas seul, mais dans une communauté réglée par le juste. Donc l'accomplissement de l'homme, hein, sa finalité, qui se trouve dans le bonheur, est intrinsèquement lié à une communauté politique. D'où cette thèse complémentaire que la communauté politique ou la cité, elle pose les conditions du vivre bien. To-e-zen. To-e-zen. Le vivre bien. Ça, c'est un élément évidemment. La cité n'a pas simplement pour but de vivre. On pourrait dire nous avons besoin de la cité pour vivre. Le paysan, le couple a besoin d'une armée pour vivre. Mais pour Aristote, ça c'est les animaux. Ce à quoi les hommes aspirent, c'est à vivre bien. Ah, ça c'est un élément essentiel. Nous avons déjà vu que toute communauté vise un bien. Le couple vise le bien de la famille, la production, les enfants, le paysan, le bien de son entreprise. L'armée, elle vise repousser les ennemis et de faire vivre la cité dans la paix. Toute communauté vise un bien, mais la communauté politique comme telle vise un bien spécifiquement humain, celui de vivre non seulement pour satisfaire ses besoins ou pour se regrouper contre les dangers, mais ce bien qui consiste à vivre selon ce que l'homme cherche quand il vit, à savoir le bonheur. Eudaimonia, le comblement de l'homme, sa satisfaction. Qui a un autre nom, l'autarcie. L'autarcie, c'est quand on est dans le bonheur et quand le bonheur se suffit à lui-même. Bonheur, nous l'avons vu au passage, n'est-ce pas, qui se différencie fondamentalement de toute forme de, d'avidité, de convoitise, etc. Ça, ce sont des plaisirs qu'Aristote ne nie nullement, hein, plaisir sexuel, le plaisir de la table, bon, bien sûr, mais ça, c'est des plaisirs secondaires par rapport à ce bonheur ultime qui est le plaisir des plaisirs, si on voulait dire, hein, qui est l'autosatisfaction. Donc, ce qui fait qu'une cité est vraiment humaine provient de ce qu'elle est une communauté de la vie bonne ou de la vie heureuse. Tozen eudaimonios kai okalos. Belle et bonne, kalos. Belle et bonne, ça c'est assez amusant. La vie à la fois belle et bonne. Parce que si elle est bonne, elle est forcément belle. Ça c'est très grec. Elle est belle, pas seulement juste. La justice doit être belle. C'est une idée qui nous est un peu étrangère, et je crois qu'on peut quand même la savourer. La vie commune est belle. Quand elle est ordonnée, quand on est heureux ensemble, c'est non seulement bon, mais c'est beau. Hein, pensons à une soirée de famille, une fête, un mariage. Voilà, c'est à la fois bon d'être ensemble, et c'est beau. Et ça se suffit à soi-même. Il faudrait que ça dure toujours. Ça ne dure pas toujours. Alors, c'est dire aussi, voilà un point que nous reverrons plus tard comme très différent dans la modernité, la communauté politique ne vise pas seulement le vivre ensemble, mais l'accomplissement du bien de l'homme, de son bonheur. Et c'est d'ailleurs pourquoi Aristote met parmi les biens suprêmes ou les vertus suprêmes l'amitié, la philia, comme ce qu'il définit comme un choix réfléchi de vivre ensemble, au gar tu sudzein pro aeresis filia. L'amitié. Alors à nouveau, c'est une expression qui est éloignée de la fusion amoureuse platonicienne, comme de la bienveillance désintéressée. L'amitié, c'est une bienveillance réciproque et politique, un a priori de bienveillance à l'égard de l'autre. Je vais peut-être lire un petit passage, si je le retrouve. Il y a tout un livre sur l'amitié qui est très, très beau. L'amitié, oui. Bon, je ne veux pas lire ce... Il distingue plusieurs types d'amitié. Donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que cette amitié-là n'est pas l'amitié au sens moderne du terme. Par exemple, on parle toujours de l'amitié entre Montaigne et la Boétie, l'amitié personnelle, que Aristote reconnaît aussi. Mais l'amitié dont il parle, c'est une amitié qui n'est pas simplement un lien singulier entre deux individus, c'est une vertu publique. C'est une vertu publique et en somme collective qui définit le type politique du lien humain. Et cela va si loin que Aristote va jusqu'à dire que cette vertu de l'amitié doit être favorisée par le législateur. Le législateur doit favoriser cette amitié parce qu'elle est le bien suprême. L'amitié, je cite le livre 8e de l'Éthique à Nicomaque, semble être le lien des cités et attirer le soin des législateurs plus même que la justice. Donc la première tâche du législateur, c'est évidemment de faire des lois justes, et ça nous verrons une différence avec la modernité, pas seulement de faire des lois justes, mais de favoriser l'amitié. Le lien social que nous aurions aujourd'hui, la concorde qui ressemble en quelque sorte à l'amitié, paraît être l'objet de leur principale sollicitude, tandis qu'ils cherchent à bannir tout particulièrement la discorde ennemie de l'amitié. D'ailleurs, ça c'est un texte très impressionnant, si les citoyens pratiquaient entre eux l'amitié, ils n'auraient nullement besoin de la justice. Mais même en les supposant justes, ils auraient encore besoin de l'amitié. La devise républicaine, la fraternité, qui est un mot un peu vide. Ben, c'est ça, l'égalité, la liberté, très bien, très parfait. Un peu plus, l'amitié. C'est un texte impressionnant, hein, j'en lis. Même en supposant, d'ailleurs, si les citoyens pratiquaient entre eux l'amitié, ils n'auraient nullement besoin de la justice. Mais même en les supposant justes, ils auraient encore besoin de l'amitié. Et l'attitude qui est de toute la plus juste paraît tenir de la nature de l'amitié. L'amitié est nécessaire, que dis-je, elle est admirable. Nous ne ménageons pas nos éloges à ceux qui en ont le culte, et le grand nombre d'amis constitue un des avantages les plus honorables, etc. etc. L'amitié, donc, comme vertu politique, plus que la justice. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que, évidemment, la philosophie moderne, l'amitié dans le métro, l'amitié entre M. Fillon et M. Copé, bon, ou entre Rocard et Mitterrand. Donc, je dis ça par plaisanterie, mais pour souligner quand même ce que cette thèse a d'un peu surprenant, l'amitié entre les citoyens. Je dirais volontiers, en se posant, c'est la fraternité. Si vous remplacez, dans ce que je viens de dire, le mot d'amitié par le mot de charité, c'est ce que saint Augustin va dire. Si nous étions tous unis par la charité, il n'y aurait pas besoin de justice. On ne volerait pas, on ne mentirait pas, on ne tromperait pas sa femme, etc. Si on était unis par la charité. Voilà, alors voilà le si, l'utopie. Mais voilà. Bon. Alors je voudrais quand même tirer quelques conséquences, je suis le plan, de cette thèse. Alors, je vais en donner trois que j'ai indiquées sur le plan. Je vais être plus rapide ici. Bon, la première, ce que j'appelle thèse, enfin, la première conclusion qu'on peut tirer, qui est, je crois, extrêmement intéressante et féconde, c'est que l'être humain n'atteint son accomplissement humain que dans la cité. L'homme véritable, pour Aristote, c'est le citoyen. On ne peut pas être un homme si l'on n'est pas un citoyen. Donc sans participer à la vie de la cité. Bien sûr, pour Aristote, il ne faut pas comprendre la chose de manière totalitaire. Parce que si la cité donne à l'homme des mœurs, ce n'est pas la cité qui donne en totalité le bonheur à l'homme. Le bonheur, il le trouve, ben justement, en épousant une femme ou un homme, en travaillant sa terre, en étant au service de la cité dans l'armée. Donc, la cité, si elle donne à l'homme des mœurs, ne lui donne pas la totalité de sa vie morale. On peut être bon citoyen, pour Aristote, c'est-à-dire obéir aux lois, sans être très vertueux dans la vie privée. On peut être un bon citoyen et un salaud vis-à-vis de sa femme ou de ses enfants. N'est-ce pas ? Donc, c'est pas la cité qui va vous indiquer et qui va vous imposer la façon d'aimer votre épouse et vos enfants. C'est à vous de le trouver, pour Aristote. À nouveau, respectons les choses. Donc, c'est pas une conception totalitaire de la cité qui va vous dicter, vous imposer des mœurs dans la famille. C'est à vous de les trouver. Et vous pouvez être un salaud en famille, un bon citoyen. Par contre, si vous êtes un mauvais citoyen aux yeux d'Aristote, je dirais jusqu'à dire, vous n'êtes peut-être pas vraiment, vraiment humain. Quelque chose qui vous manque. Vous êtes du côté de l'animalité, où vous croyez en Dieu. Alors, on pourrait dire que pour lui, la morale concerne le comportement personnel, mais elle ne serait pas possible s'il n'y a pas une cité stable et ordonnée. C'est plutôt ça, c'est la cité stable et ordonnée et le présupposé de la conduite droite. Et on voit bien l'idée, c'est que si la cité est en désordre, s'il y a la guerre civile, s'il y a la guerre, si la cité est conquise, ben, la vie familiale devient impossible ou très difficile, irréaliste. Inversement, si la cité est stable, elle ne va pas vous dire comment elle est votre femme, mais elle pose des conditions pour que vous l'aimiez, des conditions pour que vous ayez une ferme prospère, etc. Donc voilà, il y a un problème de relation. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a, pour Aristote, une large coïncidence entre citoyenneté, moralité et humanité vraie. L'humanité vraie se vit dans la cité, et c'est la cité qui vous donne quand même les conditions de possibilité de la moralité vraie. Et on pourrait dire que pour Aristote, l'appartenance politique est si essentielle, si liée à la nature de l'homme, que sans elle, nous l'avons vu dans les textes, l'homme ne serait pas vraiment homme. Il serait ou un dieu, ou un animal. Et plus vraisemblablement, un animal qu'un dieu. Donc c'est en ce sens qu'on peut comprendre la formule naturellement politique. L'homme ne peut être homme que dans une cité. Parce que c'est la cité qui lui donne le logos, qui lui donne les mœurs, qui lui donne les lois, et qui permet à chacun d'atteindre sa fin suprême, qui est le bonheur. Et le bonheur avec tous. Alors la deuxième remarque, c'est que, j'y ai insisté en faisant un peu la lecture du texte, c'est que la cité, bien entendu, est tout à fait essentielle aux yeux d'Aristote, elle colle, je dirais, à notre humanité, mais évidemment, elle présuppose d'autres communautés. Et donc, il ne faut pas faire une lecture totalitaire d'Aristote, comme si c'était la cité qui dictait à la famille ses façons de vivre, aux paysans ses façons d'élever son troupeau. Bien sûr, sans la cité, il n'y a pas d'humanité véritable, ou seulement apparence d'humanité, mais la cité maintient en elle d'autres communautés qu'on dira partielles. La famille, les familles, les ethnies, la vie économique, les entreprises diverses, etc. Et la cité n'a pas, aux yeux d'Aristote, à leur dicter leurs règles de fonctionnement. À nouveau, contre le communisme platonicien, qu'Aristote a toujours plus ou moins en vue quand il veut montrer le caractère aberrant, antinaturel à ses yeux, de ce communisme platonicien, et donc dangereux. Là, Aristote n'est pas du tout socialisant, et encore moins communiste, hein, ça, il ne faut pas se faire d'illusions. La cité bonne, alors voilà aussi qui est intéressant par rapport à notre sujet, c'est celle qui est capable de maintenir en elle des différences. Ce n'est pas du tout une cité de l'uniformisation, une cité de l'égalitarisme, une cité dans laquelle tout se vaut. C'est une cité qui est capable de s'épanouir dans la diversité des familles, des ethnies, etc. Donc, Aristote admet parfaitement les différenciations sexuelles, alors il ne serait pas du tout favorable aux théories du genre, hein, où l'homme et la femme, pour tout, c'est un peu pareil. Non, c'est pas pareil du tout. Et au contraire, il faut maintenir une différence. Comme il faut maintenir la différence d'une famille à une autre, comme il faut maintenir la différence des entreprises, des classes sociales, des activités économiques, des loisirs, dont Aristote parle aussi, le théâtre, etc. Donc, la société dont il parle n'est pas du tout une société totalitaire, et certains auteurs, je pense à Fustel de Coulanges, à la fin du XIXe siècle, dans un livre remarquable qui s'appelle « La cité antique », a un peu cru que la cité antique était une société pratiquement totalitaire. En réalité, non, je crois que c'est une cité qui vivait de ses diversités, et c'est un point, évidemment, tout à fait intéressant. Alors, la troisième remarque, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure un peu sur mode ironique ou de la plaisanterie, c'est que il revient aux cités de se donner leurs institutions. Elles ne tombent pas du ciel, elles ne sont pas dans la nature. Il importe de savoir, et c'est un des rôles de la philosophie aux yeux d'Aristote, comment une communauté politique va s'organiser pour permettre à la fois la viabilité de cette diversité, sans que les uns bouffent les autres, et à la fois pour trouver les modalités de la vie commune. Comment assurer, par des institutions, le bien suprême qu'est le bonheur de l'homme? Et c'est pourquoi Aristote, toujours en observateur, étudie les constitutions, politema, les constitutions que les hommes se sont données, la constitution des Perses, la constitution des Égyptiens. La politema, c'est ce qui met de l'ordre, taxis, c'est ce qui fait que les uns gouvernent pour un certain temps, que les uns s'occupent des finances, que les uns contrôlent l'armée, que les autres veillent à la répartition des charges, les magistratures, la répartition des impôts. Hein, donc il faut que les citoyens participent avec autant de justice que possible, à la vie de la cité, par exemple l'armée, ben, il faut payer les armements, il faut payer les militaires, bon, comment va-t-on faire ça? Ça suppose une constitution qui répartisse les charges, et Dieu sait si les Grecs étaient attentifs à la répartition des charges, et même à leur rotation, pour qu'on ne s'encroûte pas dans les charges, dans les magistratures, qu'on évite la corruption, hein, en évitant que les gens habitués aux finances s'en mettent plein les poches. Et c'est une étude d'autant plus importante aux yeux d'Aristote qu'il faut que la Constitution s'adapte à un peuple. Là encore, il n'est pas du tout platonicien. La bonne Constitution, elle va prendre en compte, ce que va d'ailleurs redire Montesquieu bien plus tard, la nature d'un peuple, ses mœurs, ses façons de penser, ses traditions, sa diversité culturelle. Donc, ce qui est bon pour les Perses, la bonne constitution des Perses, ne va pas nécessairement être bon pour les Grecs ou pour les Égyptiens. On peut s'inspirer de la constitution des Perses, bien entendu, pour l'équilibre des pouvoirs, pour la répartition des charges, mais il faudra toujours tenir compte, si l'on est aristotélicien, de la particularité de ce peuple. Une trop grande inadaptation, et là encore, la recherche d'une constitution idéale serait pour Aristote une catastrophe. Une trop grande inadaptation va produire des troubles, parce que ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut une constitution adaptée à ce peuple et une constitution qui va elle-même être capable de bouger en fonction de l'évolution des mœurs, de l'évolution des techniques, de la démographie. On ne peut pas avoir la même constitution si le peuple est nombreux, ou au contraire, s'il est vieillissant et peu nombreux. Donc, il faut des constitutions qui soient capables de souplesse. Et Aristote est grandement admirateur de ces grands législateurs, qui ont été Solon et Lycurgue, qui ont donné à la Grèce des constitutions adaptées. Mais le problème, c'est que les constitutions, comme d'ailleurs le reste de la nature, peuvent connaître la corruption et la décadence. Et Aristote est parfaitement conscient que la meilleure constitution, à un moment donné, peut se dégrader, ben, tout simplement pour des raisons démographiques. La constitution était adaptée à un peuple nombreux, ça ne marche plus dans un peuple qui est devenu moins nombreux, et inversement, un peuple qui est devenu peu nombreux, qui est devenu très nombreux, ne peut plus vivre de la même façon qu'un peuple rare. Et de même, s'il y a une présence de ce qu'il appelle des métèques, c'est-à-dire des étrangers, à l'intérieur de la cité. Donc, la constitution va dépendre du génie d'un certain nombre de fondateurs, de législateurs, et Aristote est bien conscient que ce génie ne va pas découler d'une observation de la nature. La constitution dépendra de l'observation juste de l'état de ce peuple, de sa maturité, de son immaturité, des inégalités sociales qu'il va falloir combler, et ainsi de suite. Donc, la visée du législateur, c'est d'assurer le meilleur bonheur possible de tous, le bien vivre ensemble, mais dans une situation donnée et particulière. Voilà, je ne vais peut-être pas rentrer dans la suite. Est-ce que vous auriez quelques précisions? Je rentrerai dans la réflexion sur cette philosophie politique dans le jeudi prochain. On peut prendre le temps de préciser tel ou tel point, si bon vous semble. Je vais peut-être lire quand même le dernier texte que je vous ai proposé, parce qu'il est assez intéressant pour notre conclusion. Le dernier texte de la deuxième page, qui vient d'Éthique à Nicomaque. C'est un texte très difficile à interpréter, parce que le texte grec n'est pas très clair. Mais c'est tout le rapport entre le naturel et la convention, ce qu'on appelle aujourd'hui la nature et la culture. Grand débat à propos du genre, n'est-ce pas? Est-ce que tout est naturel, c'est donné biologiquement, ou est-ce que tout est culturel? Le naturel absorbant le biologique. Donc les vieilles méditations d'Aristote ne sont pas si éloignées de nos problèmes. Alors je lisais ce texte, vous allez voir qu'il est complexe et qu'il ne faut pas le simplifier. De ce qui est juste dans la cité, donc disons la loi, une partie est naturelle, l'autre existe de par la loi positive. Naturel est-ce qui partout a la même force et qui ne vaut pas parce que l'on en a décidé ainsi ou autrement. Donc le naturel, c'est pas l'arbitraire. C'est pas la décision. Ce qui ne vaut pas parce qu'on en a décidé ainsi ou arbitrairement, de par la loi positive. Existe ce, la partie, où au départ, il n'importe pas qu'il soit ainsi ou autrement. Mais où cela importe, une fois que cela a été établi par les hommes. Voilà, compliqué. Or, certains pensent que tout appartient au deuxième groupe. Tout appartient à la culture. Hein, théorie du genre. La sexualité n'a pas de racine biologique. Elle est un produit culturel. Certains pensent que tout appartient au deuxième groupe. Parce que ce qui est par nature ne change pas, à leurs yeux. Or, sexualité évolue. Comme le feu brûle ici et chez les Perses, tandis qu'ils voient que les choses justes sont en mouvement. La sexualité bouge. Mais il n'en est pas ainsi, sinon dans une certaine mesure. Peut-être en est-il ainsi autrement chez les dieux, mais chez nous, hommes, il existe également ce qui est de nature, tout y est modifiable, et pourtant l'un est de nature, l'autre ne l'est pas. Alors, on se casse la tête sur ce texte. Mais je prendrai un exemple qu'il prend par ailleurs, la monnaie. La monnaie, évidemment, n'est pas la même chez les Perses et chez les Grecs. Aujourd'hui, le dollar n'est pas l'euro. Et ça peut changer. Donc, c'est une convention, l'euro. L'euro n'a pas toujours existé, et peut-être qu'un jour, il disparaîtra. Donc ça se relève de l'arbitraire, la règle de la loi, de la décision politique. Mais ce qui ne change pas et qui est partout pareil, c'est que vous devez avoir la même quantité de biens avec la même quantité de dollars et d'euros. N'est-ce pas? Si vous achetez du pain aux États-Unis et en Europe, eh bien il faut que vous puissiez payer la même chose dans des choses différentes. Donc, il faut qu'il y ait un rapport identique à des choses différentes. La justice, c'est pas que tout le monde paye la même chose partout, mais que l'argent ait même valeur partout. Vous puissiez, avec le même argent, vous procurer une miche de pain ou une automobile. Donc, d'un certain point de vue, c'est toujours pareil. Vous aurez toujours besoin d'avoir de l'argent, mais évidemment, la monnaie sera différente. Je ne sais pas si vous voyez ce que cela veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un universel. Il faut qu'avec mon argent, je puisse partout acheter la même chose, ça c'est l'égalité, mais évidemment, je ne vais pas utiliser les mêmes billets, donc la même monnaie, ici et là. Donc il y a une chose commune, à savoir l'égalité, et une chose qui n'est pas commune, c'est le moyen par lequel j'obtiens cette égalité, c'est-à-dire j'utilise des dollars ou de l'euro, et le taux va changer évidemment, mais il faut que je puisse me retrouver, sans quoi on aurait des injustices majeures. Voilà, ça dépend. C'est ce que Aristote appelle la nature et la convention. La nature et l'arbitraire, ce que nous appellerons aujourd'hui la nature et la culture. La nature est une sorte de constante, et la culture, évidemment, change, mais pas au point d'être totalement décrochée de ce qu'il appelle la nature. Voilà, ça c'est Aristote. Bien, nous nous retrouvons jeudi prochain et on pourra discuter de tout ça, mais j'avancerai sur quelques réflexions sur ces positions.